Du coup, on va rentrer un petit peu dans le sujet, donc sur ce règne de Milan, comme l'a dit Guillaume dans sa prière. Effectivement, c'est un sujet qui comprend un certain nombre de difficultés dans la compréhension, même dans nos milieux, dans les milieux évangéliques qui nous entourent. Effectivement, peut être différente des uns des autres. Du coup, ça me demande effectivement, en abordant ce sujet, énormément d'humilité d'y aller, on va dire, à petits pas. Dans le but de cette présentation et dans le cadre du BALS, mon objectif n'est absolument pas d'arriver avec, vous imaginez, quelque chose qui serait comme la recette aboutie, la solution à toutes les questions. Et bien loin de là, sans doute beaucoup d'entre vous sont plus avancés que moi dans les réflexions et dans la conviction que le Seigneur leur a donnée sur ce sujet. Du coup, c'est vraiment à petits pas et un petit peu comme un challenge vraiment pour moi d'aborder ce sujet. Néanmoins, j'aimerais l'aborder avec un axe qui est un axe vraiment d'encouragement, parce que je crois que ces sujets sur les temps de la fin sont avant tout pour encourager le chrétien à la persévérance et à se saisir de l'espérance merveilleuse que le Seigneur lui promet. Et du coup, c'est avec ce regard d'essayer d'attraper tout ce qui peut être encouragement à travers ce type de sujet que j'aimerais nous diriger. Je nous encourage et je vous encourage tous à regarder. Il y aura facilement la tentation d'aller immédiatement classer ce que je vais dire à tel ou tel moment dans une telle position ou telle autre, ou quelque chose qui pourrait ne pas convenir à l'héritage, mais je vous encourage à plutôt regarder ça vraiment comme une source d'encouragement. Dans le détail du sujet et tout ça, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont incomplètes. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est vraiment la lecture de plusieurs textes que, évidemment, on commentera sur lesquels on essaiera de progresser comme un peu en quête sur les éléments de ce que nous dit la Bible sur le règne de Milan, particulièrement le Nouveau Testament. Alors, je vais juste déplacer. Voilà. Je déplace la petite caméra, sinon je ne verrai pas l'écran. J'aimerais commencer par le texte d'où est tiré le mot Milan, le mot millénium, chilias en grec, qui a donné les chiliastes ou le chiliasme, qui est souvent employé de manière, de manière ancienne et de manière assez péjorative pour les personnes qui mettent leur foi et leur croyance dans cette période de réel de ce règne de Milan. Du coup, le texte central qui parle en tout cas de ce sujet, ça reste Apocalypse 20, je vous propose de lire les versets 1 à 7. « Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme et l'enferma. Et il mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent, accomplis. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint, celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ. Ils régneront avec lui 1000 ans, et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Jusque-là.
Bon, c'est compliqué.
J'entends beaucoup de choses en interférence.
Oui, c'est formidable. Moi, j'ai à faire manger, je vais faire la lessive, la vaisselle, voilà, tranquille.
Oui, mais là, je...
Ah, t'arrives même pas à te connecter? On va terminer la machine à laver.
Séverine, il y a ton micro. C'est ouvert. Sébastien et Séverine.
Ben, si tu veux, j'enlève des trucs secs hein, pour que tu plus de place pour répondre.
Vas-y, Romain.
Oui, je continue. Du coup, on peut relever plusieurs éléments dans cette description hein, cette période qui est citée là, qui est répétée, ces 1000 ans sont répétés 6 fois là, dans le texte, et dans lequel on tire un certain nombre d'éléments directement du texte qui cadrent un petit peu de quoi s'agit cette période, de quoi on est en train de parler. Premièrement, c'est un temps dans lequel Satan est temporairement enfermé et les nations ne sont donc plus séduites. C'est très clair, on a cet ange qui vient avec cette chaîne, qui lie Satan, qui le met dans alors c'est pas un trou, un abîme, quelque chose, et qui même scelle tout ça, ferme tout ça. Donc il y a un enfermement de Satan, Satan est mis à part, est mis de côté. Et le pouvoir de Satan d'égarer effectivement les nations est aboli pendant le temps de cette période. Deuxième élément, c'est un temps qui est inauguré par et même j'allais dire encadré par des notions de résurrection. On parle explicitement d'une première résurrection. Qui est comme là pour inaugurer ce temps. Et si on parle d'une première résurrection, même si le mot n'est explicitement pas employé, on suggère fortement une seconde résurrection à la fin. Si on dit qu'il y en a une première, c'est qu'il y a bien quelque chose qui va suivre, et on l'aura dans la suite du chapitre 20, effectivement. C'est un temps de règne. Puisqu'il est employé, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Donc, d'où le fait de passer à une période de 1000 ans, au règne de 1000 ans. Christ est véritablement en train de régner pendant cette période. Et les fidèles ressuscités qui l'accompagnent et qui sont intronisés aussi dans ce règne le sont pour. Non seulement cette période, mais pour la vie éternelle. Quatrième point, c'est qu'on voit que ce temps est un temps dans lequel il y a une notion de jugement, ou du moins un exercice de la justice qui est portée. On a une notion, on voit des trônes, avec un jugement qui est donné à ces fidèles ressuscités. Et donc, le règne s'accompagne d'une notion d'exercice de justice. Finalement, on a une partie dans le fait que Satan soit lié au début du passage. Et puis, si on lit la suite de l'Apocalypse 20, on a un jugement, le grand trône blanc, qui effectivement encadre aussi cette période. Alors, pour préciser un petit peu chacun de ces éléments, à quoi ils peuvent bien se rapporter dans le reste de la révélation biblique, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder notamment dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui est dit sur chacune de ces différentes notions que l'on retrouve qui contiennent, hein, qui sont contenues là dans ce règne de 1000 ans, notamment qu'est-ce que l'on apprend sur la résurrection, qu'est-ce que l'on apprend sur le règne ou le roi ou le royaume, et qu'est-ce qu'on apprend sur la justice, en tout cas les jugements. Alors, volontairement, je ne vais pas aller piocher dans l'Ancien Testament, non pas qu'il n'y ait pas énormément de choses à faire, mais dans les interprétations contradictoires de ce texte qui fait écrire effectivement beaucoup d'encre, on a notamment la double interprétation, le fait que certains pensent effectivement qu'il s'agit uniquement ici de quelque chose d'imager, et donc qui ne se réalise uniquement de manière spirituelle, alors qu'une lecture plus littérale du texte amène logiquement à effectivement l'espérance d'une période bien établie de ce règne de 1000 ans, caractérisé par ce que l'on vient de dire, Satan qui est enfermé, qui est inauguré et qui est conclu par des résurrections, un règne de Christ avec ses fidèles ressuscités et un temps d'exercice de la justice. Dans la façon de lire le texte de manière plus imagée, de manière plus spiritualisée, on comprend la notion de résurrection, d'enfermement de Satan comme des choses déjà réalisées par la victoire de Christ à la croix, et donc comme un temps finalement qui est effectivement déjà présent. C'est pour ça que j'ai choisi de lire des textes qui se rapportent essentiellement dans le Nouveau Testament et non pas dans l'Ancien, parce que l'Ancien ne permettrait pas finalement d'avancer sur ces questions-là. Et beaucoup de textes se retrouvent soit dans des textes prophétiques, soit dans des textes effectivement qui sont poétiques et qui rendent plus difficile la comparaison des éléments. Alors, premièrement, du coup, un petit survol des notions de résurrection. Dans le Nouveau Testament, on voit assez bien. On voit très bien qu'au-delà de la d'une résurrection finale de tous, qui était même espérée par les saints de l'Ancien Testament et crue par une partie des Juifs à l'époque du Seigneur Jésus, Christ instaure finalement une nouvelle notion de résurrection qui lui est liée, qui est liée complètement à la foi qu'on met en lui. Ça se voit très bien dans Jean 11, verset 24, quand, lors du contexte de la résurrection de Lazare, Christ, le Seigneur, encourage Marthe, et Marthe lui dit « Je sais qu'il ressuscitera en la résurrection », en parlant de Lazare. « Je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour ». Donc, notion, effectivement, d'une résurrection finale à la fin des temps. Et Jésus lui répond quelque chose de très intéressant. Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. » Là, il va placer la résurrection non pas juste comme un jugement à la fin des temps établi par Dieu, mais quelque chose qui est complètement lié à la foi en sa personne et qui, comme instaure une nouvelle sorte de restauration. En Jean 6, on lit ceci, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » À nouveau, on voit le lien entre le fait de placer sa confiance, croire au Seigneur Jésus et le fait d'une promesse de la résurrection. On remarquera que la même expression au dernier jour, qui est une expression assez large, assez vague des temps de la fin, est employée dans les deux cas. Alors, il est vrai qu'on a un certain nombre d'éléments qui associent cette résurrection liée au Seigneur Jésus à une réalité présente. Une sorte de déjà. En Jean 5, « en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » On pourrait dire il est déjà passé de la mort à la vie. C'est bien l'étape de conversion qui, déjà, en espérance du moins, fait que la personne est passée de la mort à la vie. Romains 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Il s'agit bien de quelque chose d'une vie nouvelle qui est bien pour le temps présent. Romains 6, 13, « Et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme d'entre les morts étant faits vivants, et vos membres à Dieu comme instrument de justice. » Et enfin, 1 Pierre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Notre rapport à la mort a totalement changé, et au moins spirituellement, nous sommes déjà finalement dans cette vie de ressuscité. Alors de suite, évidemment, des milliers d'objections vont arriver dans vos esprits. On sent, par rapport au texte d'Apocalypse 20 que j'ai lu, est-ce qu'il s'agit de ce type de résurrection dont on parle ici dans Apocalypse 20, une lecture littérale du texte a vraiment du mal à associer les deux. On comprend qu'il y a des prémices qui sont ici dans ces versets, mais en aucun cas quelque chose qui représente l'espérance complète dans la résurrection. Et clairement, pour nous prévenir de tout associer les notions de résurrection à quelque chose qui est une résurrection uniquement spirituelle qui se passerait dans notre vie ici, maintenant, de croyants, on a cet avertissement de Timothée 2, verset 18. Paul parle d'un certain nombre de personnes qui se sont détournées de la vérité parce qu'elles disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Ça, c'est un garde-fou pour aller complètement spiritualiser une notion de résurrection. Il y a bien une espérance, une résurrection bien plus concrète, bien plus complète dans le temps qui doit arriver. Cette résurrection dans laquelle les croyants espèrent est d'ailleurs très distincte dans son essence entre la résurrection des croyants et la résurrection des incroyants. C'est intéressant, on a même une pensée que c'est même quelque chose à tel point différent dans son essence, dans pourquoi on va ressusciter, que ça pourrait être finalement des choses même totalement différentes. Alors, dans Jean 5 à nouveau, « Car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ils sortiront. Ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie et ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de jugement. » La destinée de cette résurrection est tellement différente, une vie éternelle d'un côté et un jugement de l'autre, qui fait penser qu'on a vraiment quelque chose qui est deux entités différentes à ce niveau-là. Acte 4, verset 2, « Étant en peine de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait par Jésus, la résurrection d'entre les morts », j'ai bien pris la traduction Darby ici, qui insiste sur la notion d'entre les morts, on sort d'entre les morts, si on ressuscite d'entre les morts, c'est un élément qui est facilement repris dans divers écrits. D'entre les morts, ça veut dire que probablement il y en a d'autres qui restent morts. Alors, il est vrai que dans beaucoup d'expressions, on voit la résurrection des morts sans le préfixe « ex », mais dans certains éléments, on voit que lié à Jésus, on a cette résurrection qui fait supposer que certains ressuscitent et d'autres pas à un moment de la résurrection. Acte 24, verset 15, « Ayant espérance en Dieu, espérance que ceux-ci nourrissent aussi eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection, tant des justes que des injustes. » Là, vous pourrez me dire, mais tiens, c'est quelque chose d'associé. Mais là aussi, on insiste sur une séparation, finalement, de la nature de ceux qui vont ressusciter et donc de leur destinée, les uns en tant que justes et les autres en tant qu'injustes. Alors, cette distinction qui est clairement une distinction de destinée de cette résurrection, peut, dans au moins deux textes que l'on va regarder maintenant, même suggérer fortement une distinction même temporelle de la résurrection entre les incroyants et les croyants. Ça sort, il me semble, assez clairement des versets du passage de 1 Corinthiens 15, voici les versets 20 à 26, dans lequel on voit comme une sorte de chronologie, de séquence de cette résurrection, qui nous montre qu'on ne peut pas juste résumer, même si certains textes parlent de résurrection des morts de manière assez un petit peu générale, c'est comme si on pouvait quand même faire un zoom sur cette notion de résurrection et qu'on se rend compte qu'il y a effectivement des choses un petit peu différentes, peut-être sans doute des étapes différentes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, et il est précisé que c'est un moment particulier, lors de son avènement, la parousie en grec. Et puis il y a écrit « Ensuite viendra à la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dans ce passage, on distingue vraiment clairement une séquence, on parle d'un rang de résurrection. Christ, qui a ressuscité, et par rapport à une résurrection que l'on attend, ça fait au moins quasiment presque 2000 ans qu'il est déjà ressuscité, si on prend un ordre chronologique naturel. Et puis, une annonce de cette réaction de ceux qui appartiennent à Christ lors, effectivement, de son événement, qui est compris pour son retour, sa réapparition, sa venue. Et puis, il y a cette notion, si on parle ici d'une résurrection de ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement, rien ne fait supposer ici que cela comprend la résurrection de tout le monde. De tout le monde en même temps, des justes et des injustes, de ceux qui sont pour la vie et d'autres pour la mort éternelle. Rien de tout cela, même au contraire, le côté de « ensuite viendra la fin » laisse supposer qu'il y a dans cette chronologie qui est dépeinte dans le contexte de la résurrection, il y a quelque chose effectivement qui fait penser que la résurrection de ceux qui n'appartiennent pas à Christ arrive à un autre moment, quand on parle de la fin, et qui est indiqué comme quand il remettra le royaume au Père. Il est difficile, il me semble, d'associer l'événement de l'avènement et donc qui est un avènement, sa venue, donc si on parle de royaume, d'une entrée dans le royaume, d'une entrée de début du règne, maintenant, il règne, et le moment où ce règne prend un aspect particulier dans lequel le Christ remet ce royaume au Père. Il semble qu'entre les deux, il y a ce règne de Christ de manière assez concrète qui démarre par un avènement et qui se finit par, effectivement, une remise des royaumes au Père et sans doute le fait que tous ses ennemis sont sous ses pieds et le dernier ennemi qui est la mort qui, si on revient à notre passage d'Apocalypse 20 se situe nécessairement à la fin ou après la période indiquée dans Apocalypse 20. On a également une notion de chronologie dans le passage d'un Thessaloniciens 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, on retrouve exactement le même mot de parousie que dans 1 Corinthiens 15, nous restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à une voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est vrai que le premièrement des morts en Christ, on comprend qu'il est premièrement par rapport au fait que les vivants, finalement, rejoignent le Seigneur. Mais on voit encore un événement qui est décrit de manière assez précise, puisque dans le temps, il est associé à nouveau à la parousie du Seigneur, à la venue du Seigneur, et il n'est explicitement parlé ici que de la résurrection de ceux qui appartiennent à Christ, laissant supposer que la résurrection de ceux qui n'appartiennent pas à Christ ne sont pas situés dans le même temps. Alors, cette résurrection n'est pas uniquement une résurrection d'esprit, alors l'esprit ne meurt pas, mais qui reste une résurrection de choses totalement spirituelles et désincarnées. Clairement, les passages de Corinthiens et de Romains nous parlent de résurrection des corps, certes, des corps transformés, des corps glorifiés. Il n'empêche qu'il s'agit bien d'une résurrection des corps. Il s'agit là, du coup, d'une reprise de vie, on va dire, concrète, et pas quelque chose de totalement vaporeux. 1 Corinthiens 6, versets 13 à 15, « Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ?» La notion de résurrection dans ce passage de Corinthiens 6, elle est complètement encadrée par la notion de corps et de ce que l'on fait avec de notre corps. Et donc, nos corps sont destinés à être ressuscités, les corps que l'on a, même s'ils sont destinés à être restaurés, réparés, glorifiés. 1 Corinthiens 15, 42-44, aussi est la résurrection des morts. Il est semé en corruption. Les versets qui précèdent permettent de préciser qu'il s'agit ici du le corps est semé en corruption. Il ressuscite en incorruptibilité. Il est semé en déshonneur. Il ressuscite en gloire. Il est semé en faiblesse. Il ressuscite en puissance. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Il y a bien sûr un corps qui est modifié. N'empêche que cette notion de résurrection des corps est très concrète, très, très, très importante pour notre espérance. Romains 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. » Ici, le temps vivifiera n'est pas au présent, c'est quelque chose qui évidemment qui est passé, dans le futur, et qui rejoint cette espérance à une transformation de nos corps qui n'est pas encore réalisée. Les résurrections, ces notions de résurrection sont très souvent associées aux proches d'un exercice de la justice divine. On ressuscite pourquoi ? Pour une destinée, mais entre la résurrection et cette destinée, il y a toujours un point avec Dieu. Il y a quelque chose dans lequel il y a un point, un jugement qui est exercé. Je reprends le même passage qu'on a déjà lu de Jean 5, hein. Car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie et ceux qui auront pratiqué le mal en résurrection de jugement. On voit Derek associé à la résurrection, notion de jugement. Hébreux 9, verset 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement, entre mourir et le jugement, on va intercaler effectivement, il faut qu'on puisse comparaître devant un tribunal, donc il faut d'une manière ou d'une autre que les personnes soient ressuscitées. Ce n'est pas un jugement où la personne qui est jugée n'est pas présente. Luc 14, verset 14, une notion assez intéressante. « L'appareil te sera rendu à la résurrection des justes. » Il s'agit là d'une réponse du Seigneur à lors d'une invitation. Il y a un repas chez un juif riche qui effectivement accueille Jésus à un repas, et le Seigneur l'encourage à ne pas juste inviter des gens qui pourraient lui rendre l'appareil, mais aussi à inviter à des pauvres, des gens qui ne pourraient pas le faire. Il encourage à cette bienfaisance, et le Seigneur lui dit que sa récompense, l'appareil, te sera rendue à la résurrection des justes. Il l'associe à cette résurrection des croyants. Et il est intéressant qu'ici, on voit une association à une évaluation finalement de quelque chose qui aura été fait dans ce corps, dans notre vie, et qui est évalué finalement au moment de la résurrection. Et ici, pas uniquement évalué pour une question de jugement des méchants, mais associé à la résurrection des justes, avec une évaluation ici positive dans ce cas de l'œuvre bonne qui aura été pratiquée par ce juste. Alors, finalement, si je reviens au texte d'Apocalypse 20, il me semble assez difficile, avec ce qu'on vient de lire, de uniquement placer, du coup, la notion de résurrection ici des âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Uniquement à de la résurrection spirituelle déjà présente, déjà réalisée finalement dans nos vies, et que le royaume soit notre période actuelle, et puis que finalement ça soit déjà ça, de pouvoir participer, d'être bien heureux de participer à la première résurrection. Bien sûr, cette résurrection spirituelle, nous le croyons, sont les arts et notre espérance des promesses que Dieu nous a faites. Donc, c'est effectivement ce déjà est quelque chose qui est là pour nous encourager, effectivement, de choses qui sont déjà acquises, parce que tout s'est acquis à la croix au Seigneur Jésus. Néanmoins, ça n'exclut pas pour autant la réalité de notre temps de résurrection, et qu'il est, il me semble, plus facile, plus naturel dans la lecture, effectivement, d'associer la résurrection ici de de martyr pour le témoignage de Jésus ou de fidèle à ça. On peut associer de manière très littérale finalement à des martyrs peut-être d'une période donnée, peut-être uniquement de la grande persécution. Mais l'association avec le règne pour 1000 ans et ses promesses, on le verra, ne peuvent pas juste être associées à des saints d'une période particulière. En tout cas, ils sont, il me semble, l'espérance commune de tous les croyants. Alors, on a abordé les choses sur le plan de la résurrection. J'aimerais faire la même chose sur le plan du règne, du roi et du royaume. Il est vrai que Christ peut être reconnu comme roi et qu'il est reconnu comme tel parmi les siens et par les siens, on va dire, dès maintenant. Jésus lui-même, devant Pilate, va affirmer à Pilate, quand Pilate lui pose la question « Tu es donc roi ?» Jésus lui répond « Tu le dis que moi je suis roi. » Donc il ne le contredit pas, au contraire, il affirme « Moi je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est la vérité écoute ma voix. » Donc, de la même façon, en Matthieu 28, Jésus va affirmer quelque chose qui est de caractéristique, une caractère du roi des rois. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas une notion ici de futur. On est déjà dans quelque chose qui est dans le présent. Et les chrétiens des premiers siècles, comme le montrent les passages, le livre des Actes, très probablement le croyaient fermement. Alors, on a une indication qui est une indication indirecte par des contradicteurs des premiers chrétiens. Néanmoins, le verset, par exemple, d'Actes 17, ici pris en exemple, ils traînèrent Jason, on est à Thessalonique, si je ne me trompe pas, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde, ils parlent de chrétiens de l'époque des Actes, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus donc chez lui. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus, qui montre bien que ces croyants considéraient Jésus comme leur roi. Le Nouveau Testament affirme qu'en étant monté au ciel, Christ s'est assis sur le trône de Dieu, à la droite de Dieu, associant ainsi Christ à la souveraineté de Dieu. Alors, je ne vais pas lire tous les passages qui sont dans cette diapositive, mais c'est absolument pas exhaustif en plus. On l'a à la fois par la transmission et la transcription de promesses de l'Ancien Testament qui sont considérées comme réalisées par les apôtres, que ce soit dans le discours de Pierre en acte 2, qui reprend un passage des psaumes en parlant de Jésus, l'associant à Jésus, « Assieds-toi à ma droite pour que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » On a d'autres situations de psaumes dans les Hébreux, comme Hébreux 1, verset 8, « Mais quant au Fils, ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles, et c'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. » Christ est assis à la droite de Dieu dans les Colossiens, dans les Hébreux, que ce soit Hébreux 8 ou Hébreux 12, Christ s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, il est assis à la droite du trône de Dieu, et dans le début de l'Apocalypse, on lit également « Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis. » On est dans le présent. Je me suis assis avec mon Père sur son trône dans ce début du livre de l'Apocalypse. Un passage intéressant dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26. Jésus lui dit, tu l'as dit, de plus. Alors, pardon, c'est au moment du tribunal, du jugement par Caïphe, devant les représentants du Sanhédrin. Jésus répond donc de plus, je vous dis, dorénavant, donc en s'adressant à ces représentants du peuple juif, dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme, parlant donc de lui-même, assis à la droite de la puissance, donc il revient à la droite de la puissance de Dieu, et intéressant de la suite, et venant sur les nuées du ciel. je trouve qu'il y a comme une notion de... il y a une dynamique, hein, il est à la fois assis et il est à la fois comme venant sur les nuées, donc il est à la fois en mouvement et venant sur les nuées, ça nous évoque, alors c'est presque une citation finalement d'un verset de Daniel, dans lequel on voit la parousie de Christ qui revient en gloire. Même si Christ est assis finalement sur le trône, ça n'empêche pas de voir plus loin dans les promesses pour le temps futur, une dynamique d'un roi qui juste ne va pas juste rester assis dans les cieux, et voilà, c'est fait, et tout est accompli presque, il n'y a plus qu'à établir le mot de la fin. La destinée de ce roi qui est assis, c'est de revenir effectivement en gloire, et ceux qui l'ont rejeté le verront. Dans ces manifestations de Christ, dans pas mal de passages qui parlent ou qui associent la gloire de Christ et on voit une association entre Christ et Dieu qui font presque une fusion et qui soulèvent le lien très étroit de la divinité entre le Père ici et le Fils. On a Christ qui reste qui est vraiment la manifestation visible de la royauté divine, et en ce sens, on peut effectivement affirmer que Christ est déjà roi dans le fait qu'il s'associe tellement au caractère aussi de Dieu le Père. Dans le passage de Timothée 1, verset 17, « Or, quant au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit l'honneur et gloire au siècle des siècles », si on lit le passage d'avant, on a l'impression qu'on parle que du Seigneur Jésus, qui fait qu'on peut... associer ce texte complètement à Christ et en affirmer la divinité. Alors certes, il y a le mot invisible là-dedans qui est associé à quelque chose, à un caractère effectivement du Père, Père n'étant que visible au travers du Fils. Cette association, on la voit encore dans 1 Timothée 6, dans lequel « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate » de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Encore Christ qui révèle le Père, qui manifeste le roi des rois en sa personne. Ces manifestations visibles de la royauté divine vont parcourir le thème de l'Apocalypse, que ce soit 11, 15, 17, 19, dans lequel on va associer ces qualificatifs finalement de la divinité, de celui qui est souverain, de celui qui règne, et qui vont être associés à Christ. Le royaume du monde de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Christ est venu, il régnera au siècle des siècles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est et qui était, et tu es rentré dans ton règne. Il est qualifié de roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est même écrit sur son vêtement et sur sa cuisse dans Apocalypse 19, qui précède directement le passage d'Apocalypse 20, dans lequel on voit l'apparition et l'établissement du règne de notre Seigneur. Du coup, si on associe de la même façon qu'on parle du roi, de cette royauté, avec des éléments qui permettraient de justifier une appellation d'un déjà, soit parce que dans son caractère de Dieu, Christ règne déjà, soit dans la considération pour les siens comme déjà notre roi, il y a une notion aussi de royaume qui est aussi déjà présente. Le Seigneur Jésus va dire « Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il y a un aspect en tout cas du royaume qui est déjà en présent à partir du moment où lui est déjà présent. De la même façon, on a cette réponse du Seigneur au brigand à la croix. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, une espérance dans un royaume qui va venir. Et le Seigneur, au lieu de parler de quelque chose qui va venir dans un temps peut-être encore lointain, va associer sa réponse à quelque chose de déjà présent. il lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Certes, il s'agit sans doute de choses un petit peu différentes, d'une manifestation ou d'une réalité assez différente entre cette notion de royaume futur et d'une réalité déjà présente, effectivement, d'une association avec le Christ. Cette réalité présente n'exclut absolument pas la notion d'un royaume à venir dans une forme qui prend une concrétisation différente. Beaucoup de passages parlent du règne qui va venir, que ce soit dans la prière du Notre Père, le Seigneur encourage à parler, à prier que ton règne vienne. Alors on pourrait dire pour certains que Christ n'est pas encore mort et est ressuscité à ce moment où il parle de cette prière, qu'il s'agit d'une prière qui effectivement s'associe à un royaume, et on a un appel effectivement à une prière d'un royaume qui doit encore venir. On a déjà lu le passage 1 Corinthiens 15 qui situait la notion de règne et de royaume après l'avènement du Christ et donc après une déjà première notion de résurrection. Donc ici la place concrète d'un royaume tout à fait concret qui se situe effectivement dans un temps encore à venir. Et puis il y a le passage de 2 Timothée 4 verset 1. Je t'en adjure devant Dieu, c'est Paul qui parle à Timothée, je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus qui va juger vivant et mort, et par son apparition et par son règne. Et puis il encourage, je t'adjure de quoi ? Je t'adjure à quoi ? À prêcher la parole ici dans le temps présent. Certes, il y a dessous peut-être une difficulté de traduction, et tout le monde ne traduit pas le terme de exactement de cette manière-là quand on parle de « et par son apparition et par son règne ». Toutefois, il semble que ce soit une façon tout à fait correcte de traduire le grec qui est dessous. On a ici une association entre le temps, le moment où Jésus va juger les vivants et les morts, la notion de sa parousie, de son apparition, qu'on a déjà associée à une notion de résurrection, et on associe ici le règne. Et là, on a vraiment envie d'associer ça à Apocalypse 20, évidemment, puisque vous avez à la fois dans Apocalypse 20 cette notion d'apparition, cette notion de règne, et cette notion de jugement, effectivement, qui encadre la notion du règne. Le royaume à venir, on l'a dans d'autres nombreux passages. Le Seigneur parle d'un royaume de Dieu qui est proche, mais s'il est proche, ce n'est pas forcément qu'il est encore arrivé. En Luc, verset 22, il y a quelque chose qui... le Seigneur qui parle au moment de l'instauration de la scène, il dit qu'il ne mangera plus le pain, il ne boira plus la coupe jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu, jusqu'à ce que quelque chose soit accompli finalement dans le royaume de Dieu. Il y a effectivement quelque chose dans lequel la notion de manger et de boire et d'être présent avec les disciples, de célébrer ça effectivement ensemble, est associée à un royaume qui est encore à venir. Les apôtres d'ailleurs lui posent la question, Seigneur, est-ce en ce temps, après la résurrection du Seigneur, avant qu'il monte au ciel, les disciples posent cette question, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et lui leur répond, non pas en leur disant, oui, c'est maintenant que je suis ressuscité, donc spirituellement nous démarrons finalement un royaume ensemble. Il leur répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il semble donc pas que l'on parle de quelque chose d'immédiat. Acte 14, verset 22, fortifiant les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi et les avertissant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ne savez-vous pas que les justes n'hériteront point du royaume de Dieu ? Il y a une notion d'association entre notre vie présente et les choses qui s'y passent, et la notion de pouvoir entrer ou pas dans ce royaume de Dieu qui reste là une espérance et qui est donc forcément quelque chose de sensiblement différent à juste une notion de Dieu qui est souverain dès maintenant, que ce soit Dieu le Père, Dieu le Fils, dans leur souveraineté qui règne sur tout l'univers, ou bien le royaume, un royaume spirituel dans le cœur du croyant. On est en train de parler ici d'autres choses. Certains passages d'ailleurs sont très intéressants pour parler de la non-complétude de l'état présent, de quelque chose qui n'est pas effectivement arrivé à son aboutissement, que les choses ne sont pas encore visibles telles qu'elles seront visibles à un moment, qu'elles ne seront pas aussi manifestes qu'elles le seront à un moment donné. Hébreux 2, verset 8, nous avons « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise », en parlant de « tu as mis toute chose sous ses pieds » en espérance pour le Christ, mais nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Et de la même façon, dans 1 Corinthiens 15, on parle de « et lorsque toutes choses lui auront été soumises », sous-entendant que tout n'est pas encore, ne lui est encore pas soumis dans un certain sens. Donc, il y a un moment où, de manière très manifeste et de manière très visible, toute chose, effectivement, doit lui être soumise. Au milieu de tout ça, les croyants sont associés à ce règne, ce roi et ce royaume. Il y a également, dans le Nouveau Testament, des notions d'un spirituellement déjà présent qui est là. Apocalypse 1, qui a fait, Christ a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, qui est présent dans ce champ de louanges. C'est de la même façon que en espérance nous sommes déjà effectivement ressuscités, en espérance nous faisons également déjà partie de ce royaume de Christ. Éphésiens 6 qui ouvre le ciel et nous place dans les lieux célestes, nous nous y voyons déjà assis, la position assise fait penser à ces trônes, à ces notions de règne, et nous voyons déjà assis ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Il y a une ouverture sur ce déjà, de ce qui a déjà été accompli à la croix et qui nous permet de bénéficier en espérance de tous ces bénéfices. Colossiens 1, verset 12-13, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il s'agit de quelque chose qui est déjà présent. Mais de la même manière qu'on a parlé du royaume de Christ, du règne de Christ, de la résurrection, ce déjà ne signifie pas que c'est la complétude des choses. Et il y a évidemment un énorme pas encore qui est encore à venir. 1 Corinthiens 4, verset 8 est très intéressant. Alors, je pense que... oui, 1 Corinthiens 4, verset 8. Paul fait une sorte d'ironie là. Il est en train de reprendre les Corinthiens dans tout ce qu'ils manifestent dans leur vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et il va leur dire, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, vous avez régné sans nous. Et on comprend du contexte qu'il s'agit de quelque chose d'ironique. Paul d'ailleurs poursuit, je voudrais bien que vous régniez déjà, afin que nous aussi nous régnions. Donc, on comprend que Paul s'associe à... Non, il ne règne pas déjà. On n'est pas encore dans ce temps glorieux dans lequel, effectivement, les croyants régneront avec le Christ. Quelque chose qui est assez clair de ce passage. Si tout n'est pas complet dans ce temps présent, il y a vraiment cette promesse et cette espérance que nous régnerons effectivement avec le Christ dans son royaume. Le Seigneur fait la promesse à ses disciples que quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, ils seront assis aussi, vous serez assis sur 12 trônes jugeant les douze tribus d'Israël. 2 Timothée 2, verset 10. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Romains 5, verset 17. Car si par la faute d'un seul, la mort est régnée par un seul, beaucoup, plutôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils en vie par un seul Jésus-Christ ? On est tous dans le futur, là, dans cette promesse, effectivement, que lorsque le Seigneur, effectivement, sera assis sur son trône de gloire, nous régnerons aussi. Dans les passages du début, d'un bout à l'autre, effectivement, de l'Apocalypse, entraînent avec eux cette promesse, effectivement, que ceux qui appartiennent à Christ s'assieront aussi sur les trônes et régneront au siècle des siècles. Ça ne s'arrête pas d'ailleurs avec Apocalypse 20, mais même dans l'état final, l'état éternel, on a cette promesse de règne au siècle des siècles. Cet héritage du royaume, cette promesse du royaume est souvent associée dans le Nouveau Testament à une notion de récompense à venir, quelque chose qui doit nous encourager dans notre marche ici-bas. Si nous sommes de ceux qui doivent effectivement hériter et rentrer dans ce royaume, ça interpelle, ça a un impact dans notre vie présente et c'est presque tout l'intérêt de nous présenter en espérance finalement ce royaume. C'est pour que ça ait un impact dès aujourd'hui dans nos vies. Nous qui sommes destinés effectivement ce glorieux futur. 1 Thessaloniciens 2, verset 12, que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. 2 Thessaloniciens 1, verset 5, lesquels sont une démonstration du juste jugement de Dieu pour que vous soyez, et il parle des persécutions à ce moment-là, pour que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu pour lequel aussi vous souffrez. Jacques 2 parle effectivement d'héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Et 2 Pierre 1, verset 11, parle de l'entrée dans le royaume qui se fait avec difficulté. Il y a une notion de persécution, effectivement, de martyr qui est là. Car ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. Si on revient à Apocalypse 20, avec tout ce qu'on a lu concernant effectivement le règne et le fait que les croyants règnent avec Christ et sont assis, je trouve une assez bonne correspondance dans cette espérance, non pas présente mais future, de voir les croyants sur des trônes et assis. Certes, après avoir passé peut-être par des temps de persécution, de difficultés, comme effectivement dès le temps présent de Jean, de Pierre, etc., on annonce cette difficulté effectivement pour entrer dans le royaume, mais on voit l'association de Apocalypse 20 avec cette promesse, cette espérance future qui est donnée et qui n'associe pas juste les chrétiens d'un temps, hein, mais effectivement ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ et ils régneront avec lui dans cette période d'espérance qui nous est ici présentée. Le troisième élément, et je vais être assez un peu plus rapide, que l'on voit dans ce texte d'Apocalypse 20, c'est la notion de jugement, puisqu'il est dit non seulement que le jugement est donné à ceux qui sont assis sur les trônes, à ceux qui règnent, et puis si on regarde l'encadrement finalement d'Apocalypse 20, fin de Apocalypse 19 ou la suite d'Apocalypse 20, on est là effectivement encadré par des jugements divins. Ce du jugement, il a aussi un présent, on va dire, ou un passé, quelque chose qui est déjà établi de la même façon que le royaume, de la même façon que la résurrection. Il y a effectivement quelque chose qui est déjà acté, Jean 12, mais maintenant est le jugement de ce monde, maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors, Jean 16, et quand il sera venu, il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, et de jugement, pourquoi ? Parce que le chef de ce monde est jugé, on pourrait dire, il est presque déjà jugé. Alors on pourrait argumenter une exégèse de ces versets qui montrerait que ce n'est pas forcément quelque chose d'associé à du passé, mais on peut y voir ici effectivement un lien avec la victoire définitive de Christ à la croix, dans lequel la défaite de Satan est quelque chose de définitif, de déterminé, et qui est déjà acté, et Satan le sait très bien. Néanmoins, les notions de jugement à venir sont pléthores dans le Nouveau Testament. On a déjà cité Hébreux 9, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après cela, le jugement. Romains 2 annonce effectivement un jugement dans lequel ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. On fait effectivement référence à un temps futur. Dans cette notion de jugement, ce qu'il est important, il me semble, de relever, c'est la notion totalement différente entre le jugement, un jugement qui pourrait s'associer aux croyants et celui des incroyants. Une certaine forme de jugement ne correspond pas, ne s'associe pas à ce qui est attendu pour ceux qui appartiennent à Christ. De la même façon qu'il y avait deux résurrections, qui, dans leur essence et dans leur destinée, étaient extrêmement différentes, on retrouve cette notion dans la notion de jugement. En effet, sous une façon d'aborder les choses, le Christ dit « Celui qui croit en moi, finalement, n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Encore une notion, d'ailleurs, d'un jugement déjà préétabli. Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ de Jésus. » Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas effectivement un moment où les choses seront discutées, révélées effectivement devant Dieu, mais d'une nature totalement différente d'un jugement qui s'associe à une condamnation. Romains 14 et 2 Corinthiens 5 parlent d'ailleurs de cette manifestation devant ce qui est appelé qui est écrit comme le tribunal de Dieu ou le tribunal de Christ. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou aussi toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. On comprend que ça comprend les croyants. Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps selon qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Une comparaison ici de tous qui inclut évidemment les croyants. En ceci est consommé l'amour avec nous afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. Ce jugement qui est également devant nous s'associe à quelque chose de totalement différent, notamment notre espérance effectivement de salut qui s'associe totalement à ce jugement. Il est intéressant qu'en Apocalypse 22, verset 12, le Seigneur, parlant de son retour proche, parle avec lui non pas de jugement ou de condamnation, mais il parle de récompense qui est avec lui pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. C'est-à-dire que devant cette notion de jugement qui est associée à ce règne de Christ, on a non seulement une question, les choses qui sont révélées effectivement, mais une notion de récompense qui est également associée. On a aussi la notion que les croyants seront juges, qu'on va retrouver dans Apocalypse 20, ces personnes qui sont sur les trônes auxquelles le jugement est donné. On peut en faire un parallèle qui me semble assez juste avec 1 Corinthiens 6, versets 1 à 3. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent à un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. On a vraiment ici quelque chose qui, je trouve, s'associe très bien dans cette promesse future et cette révélation sur l'état futur, une association avec le millénium, le règne de mille ans d'Apocalypse 20. La notion de récompense, effectivement, qui est associée à cette comparution, lorsque le royaume de Dieu paraît, lorsque le Seigneur, effectivement, d'une manière ou d'une autre, revient, je trouve vraiment tout son sens dans la parabole des mines de Luc 19. Ce que le Seigneur raconte là a une énorme proximité avec finalement ce qu'on lit dans cette fin de l'Apocalypse. Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem, il est peu avant son sacrifice à la croix et sa résurrection. Et il est rajouté et qu'on croyait, il rajoute la parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Et donc le Seigneur va à travers une parabole effectivement mettre une belle lumière en fait sur qu'est-ce qu'il en est finalement dans ce royaume qui était attendu juste de manière présente. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Tiens, on a bien envie d'associer notre Seigneur qui est cet homme de haute naissance, effectivement, et qui va pour se voir investir de l'autorité royale, peut-être dans le royaume du ciel, peut-être dans ce que l'on voit toutes ces personnes qui entourent le trône divin sur lequel est l'agneau en début de l'Apocalypse, qui effectivement est là et qui précède le fait qu'il revient. Donc, si le royaume n'est peut-être pas pour l'instant, il est à venir et le Seigneur revient. Et lorsqu'il revient, il appelle ses serviteurs et Alors, et pardon, et effectivement, pour lorsqu'il va revenir, il y a plusieurs choses qui se passent entre ses serviteurs et les concitoyens. Il appela 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 mines et il leur dit « Faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. » Donc, il y a quelque chose qui est confié à ses serviteurs jusqu'à ce qu'effectivement le roi revienne pour établir finalement ce royaume qui devait paraître. Et en même temps, on a des gens qui rejettent ce royaume. Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Ô combien quelque chose d'énorme juste avant la crucifixion et qu'avant le peuple crie « Crucifie, crucifie-le. » Nous ne voulons pas qu'il règne effectivement sur nous. Lorsqu'il fut de retour, donc à son retour, après à se voir investir l'autorité royale dans le pays lointain, il fit appeler donc ses serviteurs et on le voit distribuer effectivement des récompenses, des responsabilités à travers ce qui avait été confié et des responsabilités effectivement dans le gouvernement de ville. On peut avoir ce parallèle entre ceux qui sont en train de régner finalement sur les trônes dans ce temps de royaume avec ces responsabilités qui sont confiées finalement par le Seigneur à ceux qui lui appartiennent dans ce temps du royaume. Un royaume donc qui n'est pas juste quelque chose de passif pour nous, mais quelque chose dans lequel effectivement Dieu nous donne de mettre en action, de mettre finalement ces responsabilités qu'il va nous confier et qui peuvent s'associer effectivement à des récompenses. Et d'autre côté, effectivement, une condamnation effectivement de ses ennemis, dans lequel une condamnation définitive, puisqu'on parle de les tuer à la fin du passage, de ceux qui ne voulaient pas. Il fut rejeté effectivement le royaume de Dieu. En revenant, on a vu ce parallèle, hein, le jugement qui est donné à ces saints qui sont assis sur les trônes, c'est une promesse qui est faite bien avant l'Apocalypse et qui n'est pas juste isolée comme ça au milieu de l'Apocalypse, mais déjà prédite hein, effectivement et annoncée par la parole de Paul. Et ce règne s'associe à finalement quelque chose qui est bienheureux et saint finalement dans ceux qui ont part à cette glorification, de ceux qui seront les serviteurs qui sont les serviteurs de Dieu. Alors il y aurait énormément de choses à dire et de choses à préciser. Vous aurez évidemment bien noté que j'ai été muet sur la notion de la place des nations, de la place de la nation d'Israël également là-dedans. Déjà parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps. C'est non pas parce que je veux les ignorer, mais c'est que juste il fallait choisir juste quelques aspects. J'aimerais juste en conclusion, parce que je n'ai vraiment rien cité de l'Ancien Testament, ce qui n'est pas juste du tout en parlant du royaume à venir, les caractères de règne, de justice, de cette notion de restauration, de résurrection qui sont là, s'associent assez bien à plusieurs passages de l'Ancien Testament dans lesquels on voit une terre qui est à la fois restaurer des relations finalement qui sont restaurées dans le milieu naturel, dans la société et qui sont toutefois encore caractérisées par quelque chose qui n'est pas totalement final puisque la mort est encore présente et on sait que la mort est le dernier ennemi qui sera condamné, qui sera jeté dans les temps de feu. Mais cela doit d'abord être précédé par ce temps de manifestation de Christ qui doit montrer qu'est-ce que c'est que finalement une terre qui est gouvernée par la sagesse de Dieu. Dans ce magnifique passage d'Isaïe, on a quelque chose qui nous remplit le cœur effectivement d'espérance. On a effectivement le rejeton qui naîtra des racines du tronc d'Isaïe que l'on associe à Christ. L'esprit de l'Éternel repose sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, donc il sera juge, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Associé à ce règne magnifique dans lequel la justice est présente et habite, on voit une restauration de la nature. Le loup habitera avec l'agneau, le panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisseront ensemble, et le petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion, comme un bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, et il se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Et ainsi la suite. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le coronavirus aura comme place, effectivement, si lui aussi pourra avoir ses séquences génétiques modifiées afin de devenir inoffensif, comme beaucoup d'agents d'ailleurs infectieux. Vous savez peut-être ou peut-être pas que le choléra est dû à une bactérie qui est elle-même, en fait, quand elle devient si terrible pour l'homme, infectée par un virus qui la déforme. La bactérie du choléra est totalement inoffensive normalement, et en fait c'est parce qu'elle est elle-même pervertie par la contamination d'un virus que elle devient comme ça, délétère. Beaucoup de choses sont à restaurer, et la création tout entière attend avec ardent ce moment qui, en Romains 8, est associé à la révélation des fils des dieux. C'est, on pourrait dire, presque la parousie des fils des dieux, la manifestation là, des fils de Dieu, à un moment où, effectivement, ils seront sans doute visibles sur ces trônes. C'est jusque-là que je voulais aller, avec toutes les limites, effectivement, de ce que j'ai pu formuler. J'aimerais vraiment insister sur ce côté encourageant de cette perspective, effectivement, d'un royaume, d'un règne de 1000 ans, qui certes ont certains aspects spirituellement qui sont déjà évidemment acquis. C'est évident puisque Christ a déjà vaincu à la croix, et c'est par là que tout ça est possible et tout ça est rendu possible. Du coup, je ne crois pas qu'il faut lancer des pierres ou qu'il faut se disputer avec des frères et sœurs qui formulent une formulation très présente, effectivement, de cette notion d'un roi qui règne sur leur vie, d'une résurrection qui est acquise. Toutefois, effectivement, ces choses sont totalement incomplètes, en tout cas totalement incomplètement manifestées. Et il est tellement précieux pour notre espérance d'avoir en ligne de mire un moment où les choses pourront être complètement manifestées. Même avec nos frères et sœurs qui ont une pensée différente, peut-être certains d'entre vous, je ne pense en aucun cas que cela puisse empêcher une vie de communion et une vie d'église ensemble. Beaucoup de points sur ces temps de la fin sont communs, l'espérance dans cette retour de Christ, de cette restauration des choses, beaucoup de ces espérances terrestres qui sont associés à ce règne de 1000 ans sont transposés dans la pensée amillénariste dans les temps de la fin, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui sont moins spiritualisées, elles, pour le coup, que finalement ce qui est interprété avant, et qui prend dans cette pensée une forme dans laquelle les concrétisations, effectivement, de récompenses, de choses, de résurrection des corps et tout ça sont très associées. Toutefois, il existe effectivement ces différences d'interprétation qui effectivement peuvent amener à des compréhensions différentes de ces versets, mais en aucun cas, je pense que ça doit rompre une certaine communion dans nos vies d'Église. Voilà, jusque-là.
Merci Romaric. Alors, je te laisse reprendre ton souffle.
Alors, oui, je vais remettre un petit peu de vidéo. Voilà, je revois un peu. Voilà.
Et puis, peut-être, en attendant des éventuelles questions ou remarques, je vais peut-être, moi, t'en poser une ou deux. Pour faire démarrer la machine. Alors, une question toute simple. Pour toi, qu'est-ce que ça change dans ta vie d'aujourd'hui, ce que tu nous as présenté ?
Alors, ça change que ce que je fais dans ma vie présentement. Indépendamment du fait que je porte toute cette espérance et que je me saisis de ces promesses par ma foi en Christ et en sa mort et sa résurrection à la croix qui a réglé tout ça, cette espérance dans un temps dans lequel sont mis en application tout un tas de programmes de Dieu pour l'humanité, de concrétisation de la pensée et sagesse divine dans notre vie, un temps dans lequel enfin la mise en application et la communion avec Dieu si manifeste que enfin on peut voir des relations entre les uns et les autres qui sont amenées à leur aboutissement, à leur perfection, un lien entre nous et notre créateur qui aboutit à une perfection, et peut-être même on anticipe un peu où on va peut-être un peu trop loin dans les images, mais dans ces récompenses qui se traduisent par des responsabilités dans ce règne de 1000 ans, ces jugements, responsabilités de ville dans la parabole des mines, on a envie d'anticiper finalement quelque chose dans lequel on pourra exercer dans une société, dans des relations entre les peuples, entre les nations, finalement quelque chose qui aboutit et qui est complètement empreint de la sagesse divine. Et au lieu de... On est trop souvent triste et désolé des dysfonctionnements de notre société sans Dieu, même dans les choses dont on veut bien faire, même en travaillant à l'hôpital pour soigner les gens avec une belle motivation pour améliorer les choses, on pourrait dire. On sait que ça ne peut pas arriver à sa perfection, ne peut pas arriver à quelque chose qui aboutisse finalement sans la présence et la présence physique de notre Seigneur qui est là pour nous guider. Notre président et notre gouvernement peuvent avoir des bonnes idées, peuvent nous guider dans des choses qui peuvent être bien, mais on leur sait tous leurs défauts et leurs imperfections. Et là, on aura un président, un gouvernement, on aura quelque chose qui est dans son état parfait et dans sa parfaite sagesse. Et je pense que ce serait magnifique de voir, et c'est ça une espérance pour moi dans ce royaume millénial, de participer et d'être présent dans quelque chose dans lequel les manifestations des choses selon Dieu, de nos relations, des relations sociales, des relations entre les peuples, puissent être amenées à la perfection, à la perfection divine. Alors certains...
Marie, il faut que tu fasses plus court là, dans tes remarques.
Pardon, excuse-moi, je m'arrête.
Dis-moi plutôt, maintenant, alors à ce compte-là, comment tu comprends 2 Corinthiens 5, 10 qui dit, je cite... Il faut que nous, tu en as parlé, hein, mais tu n'as pas cité tout le verset. Il faut que nous comparaissions devant le tribunal de Dieu, le Christ, afin que nous recevions les choses que nous avons commises dans le corps, soit bien, soit mal. Comment est-ce que tu envisages de manière simple et courte cette réalité ?
J'envisage ça comme finalement un point qui est fait avec Dieu, je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'une notion de salut. Puisque
on a déjà été jugé.
On a été déjà jugé les choses, et puis il n'y a pas de juge. Voilà, en Christ, il n'y a plus ce jugement. Néanmoins, pour moi, ça traduit que ce que nous faisons actuellement en temps de rentrer dans le peuple de Dieu, dans les bonnes œuvres qui sont préparées pour nous à l'avance, a un impact dans notre avenir glorieux. Et a un impact dans cet avenir glorieux. Alors, on peut parler d'état éternel, je pense que ça a un impact dans l'état éternel, mais ça a un impact assez concret dans peut-être des choses qui sont plus proches de ce que nous pouvons peut-être vivre, dans ces récompenses qui sont effectivement, les responsabilités qui sont confiées dans ce règne millénial. Donc, j'associe assez bien ce verset à la notion effectivement de récompense. Alors, on comprend qu'il y a soit bien, soit mal, de la même façon que celui qui a enterré la mine et qui l'a pas fait fructifier, moins de responsabilités lui sont confiées. Il y a, Alors, c'est pas, on pourra parler, je ne pense pas qu'il soit totalement juste de parler de punition à ce niveau-là, mais je préfère regarder ça dans une notion je, comme le Christ qui vient et je reviens avec mes récompenses. Quoi. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les choses ne soient pas... Si nous sommes jugés, c'est que les choses sont révélées et les choses cachées dans nos vies, quoique déjà jugées, je pense, ont besoin d'être mis à plat devant Dieu.
À ton sens, quelle est la différence entre le règne de 1000 ans et la vie éternelle?
Alors, je pense que la différence essentielle est que peut-être la notion, le péché n'est pas totalement, pas totalement disparu. La mort est encore présente dans ce temps-là. Et donc, c'est un exercice de... c'est un royaume, finalement, dans lequel la possibilité de pécher ou de se rebeller n'est pas totalement encore enlevée. Donc, ce n'est pas pareil, il me semble, de vivre la vie selon la sagesse divine et se diriger par le Christ dans une société qui ressemble plus, en tout cas une vie qui ressemblerait plus à ce qu'on vit maintenant avec les difficultés du péché, les tentations, etc. Alors, certes, dans des corps glorifiés dans lesquels la relation avec Dieu nous protège de chuter, néanmoins, dans la présence de ce royaume, la possibilité de se rebeller, etc., est encore visiblement présente. Du coup, la différence, c'est qu'il me semble dans le royaume qu'il y a quelque chose qui ressemble plus aux interactions, aux relations entre les peuples, etc., dans notre façon de vivre les choses actuelles, que dans un nouveau ciel, une nouvelle terre, qui est plus associé à une union quasiment complète, finalement, entre ce qui est du ciel et de la terre, dans lequel, effectivement, on est là totalement... il n'y a plus la mort, il n'y a plus du tout le péché, on est, le mal est anéanti à jamais. Il n'y a pas un retour en arrière qui est possible.
Qu'est-ce que tu as absolument pas parlé de l'Antichrist?
Oui, c'est vrai.
Quel lien peux-tu faire entre l'Antichrist et le règne? Le royaume ou...
Alors, je l'associe à ce qui précède, en fait, donc qui précède le royaume. Donc, je lis un peu de manière assez littérale ce déroulé de ce qu'on voit entre cheminement d'Apocalypse 19 ou Apocalypse 20. J'associe finalement un temps de grande rébellion, un temps de grande tribulation, effectivement, qui précède ce royaume. Qu'on prenne deux Thessaloniciens évidemment comme référence pour associer à quelque chose qui précède la révélation du Fils de la révélation de Christ qui précède son retour en gloire, qui est un retour dans lequel il y a une victoire, un écrasement effectivement de l'ennemi, dont cette annonce de cette caricature, j'ai envie de dire, de la rébellion de l'homme contre Dieu. Du coup, si tu veux faire un parallèle avec, ou m'emmener vers un parallèle avec ce qui se passe dans le royaume, c'est exactement, finalement, l'opposé. On a quelqu'un là qui dirige le monde, ou en tout cas une grande partie du monde, il dirige les peuples et la société d'une manière extrêmement perverse, extrêmement indépendante de Dieu, et on a exactement la manifestation opposée, inverse finalement, dans le Christ, qui se retrouve dans le même rôle, en tout cas, à la même place, si je peux permettre ça, à la tête, en étant en position de reine, d'être le dirigeant, et qui va exactement montrer le contraire, en fait, montrer où la folie de l'homme qui veut se diriger de manière indépendante de Dieu.
Wow. Henri, tu as des questions ou des remarques à faire?
Cette notion de royaume, si j'ai bien compris, le royaume n'a pas commencé, n'est pas établi, mais le processus est engagé.
Il y a la notion de déjà pas encore est quand même très très présente dans toute l'espérance du chrétien et dans toute l'espérance que ça soit même pour cette terre de tous les peuples. Il y a forcément une notion de déjà acquis, puisque tout cela est rendu possible uniquement par la victoire de Christ à la croix. Et ça, c'est un événement historique. Et c'est un événement historique qui se situe dans le passé. Il a forcément un impact majeur à partir du moment où il a lieu. Il n'empêche pas que... il ne signifie pas que toutes choses sont manifestées et sont concrètes immédiatement et que tout se vit uniquement spirituellement dans l'Église actuellement. Je trouve que ça ne rend pas assez honneur à tous ces versets qui parlent de choses dans le futur et, disons, demandent énormément de spiritualisation ou d'image, etc., plutôt de procéder de style plutôt que de prendre ce qui est écrit. Mais ça veut pas pour autant dire que sous une certaine forme, sur un certain aspect que j'ai essayé de cadrer, on va dire, on puisse parler finalement de quelque chose qui a débuté, d'un règne qui a débuté. Mais on pourrait arguer que la différence est telle avec ce qui est annoncé ou de ce qui est caractéristique du millénium que c'est quasiment quelque chose de différent.
Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes des résistants de ce futur royaume ?
Alors je ne sais pas. Alors, résistant, je ne sais pas si c'est le terme. Résistant voudrait dire qu'il y a eu quelque chose de plus grand avant et qu'il reste plus grand-chose de ça.
Je fais une allégorie avec ce qu'on a pu vivre sous l'occupation nazie, où des hommes, des femmes, dirigés par un homme qui était absent, puisqu'il était en Angleterre, qui n'avait jamais vu, il n'entendait que sa voix, et pourtant des hommes se sont levés dans l'assurance que ça allait changer, et qui aurait l'avènement de quelque chose de mieux face à quand même l'occupation nazie à l'époque. Bon, c'est une allégorie, mais pour essayer de comprendre un peu, est-ce qu'on peut un peu faire une allégorie de ça ? Est-ce que c'est
la différence quand même, Romaric et Henri, avec cette allégorie, c'est que c'est pas l'Église qui va instaurer le royaume pour le Christ. C'est le Christ qui instaurera.
Je suis complètement d'accord, mais nous sommes des participants de cette... puisque, si j'ai bien compris, nous allons régner demain.
Et nous allons régner comment ? C'est-à-dire que...
Oui, alors...
Le débat est très... il faudrait qu'il y ait pour qu'il y ait un vrai débat, qu'on repose peut-être certaines choses. C'est difficile de le faire maintenant. Mais je veux dire que je ne vois pas bien comment l'Église peut préparer la venue du Christ. Aujourd'hui.
Non, par contre, on est encouragé.
Elle peut préparer la venue de Christ par le fait de. Par l'évangile. Annoncer l'évangile et hâter le retour.
Mais rien ne dit dans la Bible que le Christ reviendra quand tout le monde sera converti. Je pense que le Christ reviendra plutôt en rapport avec ce que deviendra le peuple d'Israël. Et ce que seront cet Israël qui sera sauvé en Romains 11, 25, ces 144 000 en Apocalypse 7, etc. Je pense que le retour du Christ, il est là pour régner sur Israël avec l'Église. Il y a quand même une notion de peuple appelé le royaume, c'est un peuple dans lequel un roi règne. Je crois que je ne suis pas du tout sûr que l'état de l'Église ou que l'état des nations dans le monde soit quelque chose qui hâte la venue du règne. Mais bon, ça, alors, c'est un point de vue.
Quel est le sens de ce verset ? Hâtez le retour de Christ.
Ah, c'est justement l'apôtre Pierre qui dit ça en 2 Pierre 3. Et il le dit à ceux de la dispersion. Pierre, c'est l'apôtre de la circoncision. Pierre, c'est l'apôtre qui va rappeler aux Hébreux qui sont partis qu'ils ont une responsabilité pour que le Messie revienne. C'est d'ailleurs Pierre qui va dire en 1 Pierre 2, 9 et suivant que vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis. Là, il ne s'agit pas de l'Église, il s'agit des Hébreux.
Pour fermer un petit peu le sujet, parce que ça pourrait durer longtemps, mais la notion de préparation par les chrétiens, par l'Église, effectivement, du royaume peut se discuter. Et à part ce verset, n'est pas du tout évidente, en tout cas, suivant l'interprétation de ce verset, on n'a pas beaucoup d'autres supports pour aller là-dedans. Il me semble que beaucoup de versets, par contre, nous encouragent à nous préparer à ce royaume. C'est-à-dire que pas forcément que les chrétiens préparent le royaume, mais que nous nous préparions. Et c'est là l'impact de ce millénium dans nos vies présentes. C'est-à-dire que de cette préparation qui est teintée d'espérance, hein, je pense que c'est quelque chose qui doit nous concerner dans notre vie quotidienne actuellement.
Il est 10h20, alors on pourrait peut-être
Il y avait une question hier quand même, Guillaume, sur le... je ne sais pas, le frère n'est pas là, je ne le vois pas. Sur le lion qui va manger de la paille.
Oui.
On espérait avoir une réponse, mais peut-être quelques pistes.
Mais j'ai parlé du loup et de l'agneau, de l'enfant qui est effectivement le nourrisson. Je ne sais pas à quel niveau le curseur doit être situé entre l'image, le sens que ça peut avoir et une interprétation purement littérale. C'est pour ça que j'ai pris soin dans les versets cités aujourd'hui de ne pas aller dans les textes politiques ni dans les textes prophétiques pour associer finalement les éléments qui permettent de comprendre Apocalypse 20. Parce que je crois qu'on doit aussi considérer l'aspect stylistique hein, de la façon d'écrire quand il s'agit d'un texte apocalyptique, d'un texte prophétique, un texte poétique dans lequel on a le droit, et c'est ce qu'on utilise dans notre langage courant, d'utiliser effectivement des images. Maintenant, jusqu'à quel point l'image représente la réalité, c'est quelque chose d'assez difficile. Du coup, je ne sais pas si le lion mangera effectivement de la paille dans la réalité de la biologie du futur. Pour moi, ça parle quand même d'une énorme transformation de la création, des relations, on le voit, entre... Alors là, on voit des espèces animales concurrentes qui complètement changent effectivement. Et effectivement, je crois qu'en termes de toutes les déformations qui amènent tous les malheurs de cette terre, que ce soit catastrophe naturelle, que ce soit ce qui nous touche dans la maladie, en tant que nous participants de cette création malheureusement déformée, je crois que là, il y a ces versets parlent d'un changement tellement important, qui est un changement qui est divin, qui est uniquement par la puissance effectivement de restauratrice de Dieu, qu'on peut espérer à des changements absolument énormes dans tout ce qui est actuellement délétère dans nos relations et dans les anomalies de la biologie et de la création qui vogue sans Dieu. Mais pour moi, c'est très difficile de positionner le curseur du littéralisme.
Il y en avait fait, je ne sais plus qui c'est qui hier avait dit que ça avait peut-être été un peu la même... Qu'est-ce qui s'était passé dans l'Arche de Noé, où on avait les mêmes antagonismes? Ils sont restés un an ensemble. Ouais.
Tout à fait, oui. Ouais. En disant ce que j'ai dit sur la façon d'écrire, j'exclus absolument pas le fait que ça puisse être le littéralisme absolu qui soit la réalité. Hein. Cette notion de curseur n'exclut absolument pas des réalités concrètes de ce que nous présentent, nous dévoilent ces textes-là dans le futur qui est devant nous. Mais dans beaucoup d'aspects de ça, on verra bien quand même.
Très bien. Voilà, je crois qu'on va, en rester là. Il n'y a eu qu'une question de la part des participants, qu'une remarque. Bon, de toute façon, on se verra peut-être demain. Et s'il y a des choses à te dire, Romaric, on te les transmettra.
Oui, bien sûr.
Hein, voilà, merci.
Dans la position des limites et de l'humilité dans laquelle j'ai introduit là, et je n'y ai absolument pas parlé en tant qu'un spécialiste ou d'un expert de ces choses.
L'apocalypse est pour chaque époque, on y trouve quelque chose.
Oui, mais là, ils ne connaissaient pas le nombre de la bête, jamais entendu parler.
C'est sûr qu'on a beaucoup de.
Mais regarde, tout à l'heure, le journal télévisé, j'ai vu les 5 premières minutes parce que.
On va en rester là, hein, c'est moins le quart. Bonne soirée à tous. Merci encore, Romaric, et à demain pour ceux qui seront là. Au revoir.
Merci, au revoir. Bonne nuit.